Cette semaine va sortir aux éditions Delcourt la réédition des 6 premiers épisodes de la série Haunt, une série dont on avait vaguement évoqué l'existence au moment de sa sortie en kiosque en France. Mais je dis bien vaguement parce qu'elle est sortie en kiosque pratiquement aussitôt après sa sortie américaine. C'est à un point, c'est que quand nous avons commandé, puisque François et moi avons décidé de faire la série dès qu'elle était annoncée, le premier épisode est sorti en français avant qu'on ait réussi à récupérer notre exemplaire en import. Donc c'est vraiment que c'était une série qui a été traduite aussitôt. Et pour une raison assez simple, c'était s'être traduit donc dans les Chroniques de Spawn de Delcourt, un magazine qui a énormément de mal à avoir du contenu puisque la série Spawn prend énormément de retard, donc ils sortent tout en flux tendu. Et dès qu'ils ont un épisode, maintenant ils en sont effectivement à attendre que les épisodes sortent pour sortir le magazine, tellement les séries de Todd McFarlane prennent du retard au fur et à mesure. Et c'est d'ailleurs également le cas de la série Haunt, qui même si elle a des retards moindres, a quand même pris plusieurs mois de retard ces derniers temps, puisque le premier numéro, je vois, date d'octobre 2009. Donc si vous retirez 2 mois, ça veut dire qu'il a dû sortir normalement en août. Et donc, voilà, il a dû sortir en août 2009. Et là, le dernier vient de sortir le mois dernier aux États-Unis. Donc la série a pris du retard. Elle était annoncée au départ comme une révolution, puisque c'était Robert Kirkman qui arrivait donc, pour travailler avec Todd McFarlane donc, dans sa boîte TMP Prod. Donc le Haunt, c'est un espèce de personnage avec le côté horrifique d'un Spawn, avec les mouvements d'un Spider-Man et avec un peu la vie d'Invincible. Et oui, le Haunt va jouer sur beaucoup de concepts du monde super-héroïque et va volontairement jouer sur ce mélange de genres qui va en faire une série relativement unique. Elle est écrite évidemment par Kirkman, qui l'a co-créé avec Rob Liefeld. Alors que Kirkman, évidemment, on le connaît pour Invincible. On le connaît aussi pour une petite série d'horreur qui s'appelle Walking Dead, dont on parle absolument partout ces derniers temps, et qui est bien partie pour faire un carton également au Festival d'Angoulême, où elle est nominée en sélection officielle. Donc, sur cette série, donc, c'est Capullo, Greg Capullo, dessinateur qui a été longtemps sur Spawn et qui en a fait les grandes heures. À une époque, on confondait son travail avec celui de McFarlane, sauf qu'il le faisait mieux que McFarlane lui-même. Et donc, lui fait au départ les layouts, c'est-à-dire les découpages et le positionnement des personnages. Ensuite, le dessin sur la première série, donc sur les 5 premiers, est fait par Ryan Otley, dessinateur qui a travaillé au départ avec Kirkman sur Invincible et qui avait quitté la série relativement rapidement. Je crois que c'est dommage pour lui parce que ça aurait été un début de carrière très prometteur qui lui aurait permis d'être encore plus en vue qu'il ne l'a été. Et enfin, Todd McFarlane finit lui-même les planches en faisant l'ancrage. Et donc, c'est vraiment un dessin en 3 strates qu'on nous propose. Alors, le dynamisme des découpages reste celui de Capullo. Le trait au départ est évidemment à ce côté un peu, pas fun, mais un peu cartoony de Ryan Otley. Et avec un ancrage de McFarlane qui donne une certaine obscurité à la série. Dès de toute façon le numéro 6, Capullo va assurer lui-même toute la partie dessin. Et on nous apprend de toute façon à partir du 7 que Capullo va reprendre tout le dessin, puisque Ryan Otley effectivement n'est pas forcément très à l'aise avec ce côté un peu sandwich dans lequel il est pris, à dessiner des dessins où on lui a déjà fait le boulot de mise en page, donc il n'a plus vraiment l'aspect créatif, et à la fois où il n'a plus non plus la main mise sur la finition, puisque c'est Todd McFarlane lui-même qui fait cette finition. Haunt va nous raconter la vie des frères Kilgrave. Enfin, les frères. Pas tout à fait, puisque dès le numéro 1, un des deux frères meurt dans des conditions assez étonnantes. Donc, il est en fait, il travaille pour la CIA, il est en Bolivie, arrêté à un savant fou. Et quand il voit la manière dont le savant fou en question travaille sur des vies humaines, il est un peu... Bon, il tue régulièrement des gens, donc c'est un peu son boulot. Et du coup, il le voit, il se dit, c'est un salopard, c'est un nouveau Mengele. Et plutôt que de ramener ce scientifique et toutes ses connaissances, il tue un peu le scientifique et ramène donc ses cobayes donc aux États-Unis pour l'agence pour qui il travaille. En parallèle, donc, il revient, sauf qu'il a tué monsieur, mais il n'a pas pris ses notes. Et dans ses notes, il y a tous ces éléments de recherche, puisqu'il travaille sur des humains qui deviennent difformes hein, quand, selon ses expériences. Et ils ont des pouvoirs physiques et visiblement aussi psychiques. Alors on ne le sait pas encore trop, hein, c'est une piste qu'on va explorer. Mais ce qui est sûr, c'est que partout où ces excroissances de chair sont sur les personnages, ils deviennent plus forts et surtout insensibles à la douleur. Et donc évidemment, au niveau de nos mafieux boliviens, on voit des utilisations dans le terrorisme énormes sur le travail de cette personne. Et donc tout le monde veut récupérer les notes de ce scientifique. Et donc la mafia locale enlève Kurt pour le faire parler. Et comme ce n'est pas lui qui a les notes, il ne peut pas avouer. Et comme il ne peut pas avouer, eh bien, il meurt. Donc, le personnage en reste là. Sauf que, même s'il est mort, son fantôme hante encore son frère. Alors, son frère est un curé. Mais un curé pas comme les autres. Il fume, il va voir une pute 3 fois par la semaine. Enfin, il a une vie un peu dissolue. Et on découvre en fait que... En fait, de Curton, enfin, il est rentré dans les ordres il y a 6 ans juste parce que son frangin lui a piqué sa copine et qu'il était un peu dégoûté de la vie d'avoir perdu la femme qu'il aimait pour qu'elle devienne sa belle-sœur. Donc là, évidemment, quand le fantôme de son frère commence à le hanter, ça va commencer à l'enquiquiner. Il aimerait bien qu'il aille voir ailleurs et qu'il vienne pas foutre sa vie en l'air une deuxième fois. Sauf qu'évidemment, Kurt ne peut plus agir sans son frère. Et donc, il va le suivre partout pour essayer d'arranger les choses. Et surtout, il sait qu'on l'a tué pour avoir les secrets. Et que sa femme ou que tout simplement son frère sont également en danger. Et donc, il va tenter de tout faire pour sauver ce personnage donc, de son frère. Et juste, quand le fantôme de Kurt arrive en contact avec son frère... On a un peu une mauvaise surprise puisque Daniel, donc notre prêtre, voit son corps se recouvrir d'espèces de matière blanche. Et Kurt peut prendre le contrôle du corps, même si c'est Daniel à l'intérieur. Et il se transforme donc dans ce personnage qu'on va appeler The Hunt. Alors, The Hunt bouge comme Spider-Man, parle sans arrêt comme Spider-Man, parce que de toute façon, comme il parle à son frère, tout le monde le prend à moitié pour dingue, donc on sait jamais trop à qui il parle. En fait, c'est Kurt qui est le Jiminy Cricket à l'intérieur et qui lui dit « Détends-toi, laisse-moi faire, je contrôle et vas-y. » Évidemment, je saute par la fenêtre d'un immeuble avec une voiture et on fait comment ? T'en fais pas, je fais ça tous les jours. Et donc voilà, c'est cette double vie entre cet agent secret mercenaire et ce petit curé de banlieue qui va amener aussi le piquant du personnage. La différence avec Spider-Man, c'est que Spider-Man lance des doigts. C'est toute cette matière donc blanche qui fait des griffes et qui va utiliser comme couteau que Kurt Daniel, enfin Hunt, va utiliser. Et là, c'est à chaque fois que quelqu'un leur saute dessus de la boucherie. Les têtes sont coupées en deux. Enfin, on est plus proche de Kale le survivant que de Spider-Man. Hein. Autant le dire tout de suite, c'est quand même du gros n'importe quoi. Il y a d'ailleurs un moment où on voit un personnage de nettoyeur qui vient et fait « Mais comment t'as fait ça ?» Parce que, voilà, en fait, le gros problème, c'est que Daniel connaît personne, mais Kurt connaît tout le monde. Et donc, Daniel va, sur les conseils de Kurt, aller voir l'agence où travaillait son frère. Et donc, tout le monde se demande comment il arrive là, est-ce que c'est un espion? Et donc, dans cette première histoire, en 5 parties, on va voir la manière dont Daniel va rentrer dans la vie un peu de son frère et va décider effectivement d'intervenir pour sauver aussi un peu sa belle-sœur, sauver sa vie et finalement peut-être bien la reconstruire parce que, soyons clairs, hein, l'eau bénite, c'est pas pour lui. Alors, le 6e épisode se passe sur toute la longueur des 5 premiers. Et il va nous raconter donc ce qui arrivait sur le personnage qu'on ne connaît pas encore de Mirage et qui va être la personne qui va posséder tout simplement les notes et qui va avoir dans le premier épisode récupéré les notes du scientifique. Et ça va nous donner un éclairage totalement différent sur la vie de Kurt avant, sur son plan à elle et la manière dont tout ça va se dérouler. L'épisode est assez bien vu, il reprend d'ailleurs des scènes de manière assez surprenante, notamment la première page, puisque c'est exactement le même découpage que la première page du 1. Dans le 1, c'était effectivement Daniel avec sa prostituée avec qui il couchait. Et dans le numéro 6, exactement le même découpage avec Mirage et Kurt, puisque Mirage et Kurt étaient amants. Ah oui, juste un détail, Kurt est un chaud lapin. Évidemment, il s'est tapé des tas de gonzesses dans toutes ses missions. Et ça énerve Daniel, qui évidemment, déjà, s'est fait piquer sa copine. Et en plus, c'est pour que son frangin soit même pas fidèle. Donc évidemment, ça l'énerve pas mal. Dans la deuxième histoire, pour les épisodes 7 à 12, donc qui vient de se terminer, on va voir les choses un peu changer. Daniel, déjà, va avoir changé de manière de fonctionner. Le dessin va devenir plus incisif, évidemment, puisqu'on est passé d'Otley à Capullo. Mais c'est aussi totalement représentatif de l'évolution de Daniel, qui va avoir un peu oublié son côté curé, et va commencer à prendre un malin plaisir à jouer les redresseurs de tort et donc à travailler pour l'agence ou travailler son frère. Et évidemment, ce sont les personnages qu'on avait vus dans la première histoire qui reviennent. Donc, notamment ceux qui ont récupéré les notes à la fin de la première histoire et qui vont utiliser ces pouvoirs pour créer des mercenaires à leur solde. Et voilà, donc tout va prendre un tour différent pour Hunt. Cette histoire des 7 à 12 n'est pas construite comme l'était la première sur les 1-5. On est sur un fonctionnement plus feuilletonesque, cher à Kirkman. C'est également de façon ce qu'il fait sur Invincible. Hein. On n'a pas des arcs très construits. Au contraire, on revient sur un système feuilletonesque qui est typique effectivement des comics des années 80 et de ce qu'on pouvait aimer, de la fraîcheur que Kirkman peut nous apporter sur des séries aussi différentes que Invincible ou que dans d'autres cas quand il va nous faire Walking Dead. Ça reste de toute façon toujours aussi bon, c'est toujours agréable à lire, les dialogues de Kirkman sont bons. Capullo revient après une longue absence. Et là, on prend vraiment du plaisir à le lire. Doit sortir ce mois-ci, ou est peut-être déjà sorti, je n'ai pas encore vu, un 13e numéro de The Hunt, qui va avoir en plus un prix exceptionnel, puisqu'il est à 1,99 au lieu de 2,99, à une époque où Marvel est à 3,99. En plus, c'est une série économique. Et donc, qui est là pour inciter les gens à se relancer dans la série. C'est une série qui vaut vraiment le coup. Hunt se lit très bien et est bien construit. Tous les auteurs qui travaillent dessus ont tous une maîtrise assez évidente. Et je ne peux évidemment que vous inviter à lire ce titre. Donc, dans les chroniques de Spawn, tous les 2 mois, quand ils ont de quoi sortir un numéro tous les 2 mois. Et donc, en album chez Delcourt, puisque les 6 premiers numéros vont sortir d'une seule traite. Donc, ça sort, je crois, cette semaine, ou en tout cas, sur cette fin du mois de janvier. Donc, chez Delcourt, C'est à lire. Même moi qui ne suis pas un amateur de Spawn à la base, j'ai réussi à le lire sans difficulté, bien que ce soit souvent même plus gore que peut-ce que être Spawn. Parce que bon, là, comme je disais, hein, le sang gicle vraiment à gros germes. Mais il y a l'humour qui est là grâce à ces dialogues entre ces deux frères ennemis qui sont Daniel et Kurt. Il y a vraiment, comme je disais, ce côté un peu Spider-Man qui est très plaisant là-dedans. Et donc voilà, moi je ne peux que vous inviter à lire, à relire Hunt. Là, je me suis relu pour l'occasion de cette chronique les 6 premiers. Et c'est toujours autant un plaisir à lire, à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas fait. Lisez de façon ces séries, même Hunt actuellement. Les chroniques de Spawn hein, sortent 3 magazines actuellement. Hunt, les Spawn avec donc Endgame, donc la reprise avec un tout nouveau personnage de Spawn, donc très facile pour les nouveaux lecteurs. Et évidemment, le troisième titre, c'est Image United, qui là est encore plus en retard que les deux autres. Ah, ouais, c'est les bonnes choses, ça se fait attendre. Delcourt devrait avoir largement en théorie de quoi tenir. C'est vrai que tout de suite, ils sont un peu dans la difficulté pour compléter le magazine. Mais voilà, donc Hunt se relance à partir du 13 ce mois-ci. Et Spawn, de toute façon, va ressortir à forte cadence dès qu'on aura eu le 200. Puisqu'il y a déjà plusieurs épisodes de près de suite. Donc le magazine devrait revenir prochainement avec beaucoup de matériel à nous proposer.